Les conférences du Collège de France.
Merci à vous tous pour venir ici. La beauté de donner une série de conférences plutôt qu'une seule présentation tient à ce que la conversation peut se poursuivre et que la réflexion s'accumule. Un autre avantage de cette série de conférences et de mon séjour à Paris seul est que j'ai le temps de lire des romans arabes pendant le petit déjeuner, d'où est tirée cette citation. Depuis la conférence de la semaine dernière, je n'ai cessé de penser et de discuter du corpus de lettres de requête sur papyrus et ses délimitations. Vous n'avez pas à craindre que je répète aujourd'hui la conférence de la semaine dernière. Nous avons bien trop d'autres sujets d'aborder aujourd'hui. Je souhaite toutefois revenir brièvement sur certains points avant de poursuivre. Premièrement, les lettres qui forment le sujet de mon étude, dans lequel l'expéditeur adresse le recours à autrui, y compris aux autorités, relevaient d'une économie de faveur. Tout service a un prix, payé avec un service en retour au futur, un système de auto-renforcement éternel. En plus, l'échange s'est déroulé dans le cadre de relations d'interdépendance sociale qui ont engendré des droits et des obligations pour les parties concernées. Dans l'Empire islamique, un code moral et social définissait ces droits et ces obligations comme découlant de relations personnelles au sein desquelles les partenaires attendaient les uns des autres aide et soutien, surtout pour remédier à des situations d'injustice résultant d'abus humains ou de catastrophes naturelles. Cela, en fait, constituait un droit, haq. Concrètement, je vois les lettres de requête dans un continuum. Certains aspects caractéristiques sont partagés par les lettres adressées aux autorités et celles envoyées à d'autres destinataires. Ils sont indiqués ici dans la partie en vert. Les lettres de requête accordent toute la primauté à la demande, contiennent des formules de requête avec de nombreuses variables, mobilisent des stratégies de persuasion, se fondent sur les revendications du droit, le haq, accordent un rôle important à l'oralité et donnent lieu à un examen ou évaluation de réclamations, parfois par délégation. Les requêtes étaient généralement accompagnées d'un ou plusieurs des éléments suivants. Une explication de la situation, la spécification du résultat souhaité, ainsi que des arguments justifiant l'intervention du destinataire. Les lettres adressées à des destinataires extérieurs aux instances gouvernementales pouvaient parfois inclure d'autres sujets et laissait davantage de place à des références à un échange continu entre les correspondants. La relation réciproque est invoquée directement dans ces lettres. De l'autre côté, le développement de pratiques institutionnalisées au sein de l'administration et de l'appareil judiciaire a abouti à la mise en place de pratiques judiciaires bien établies dans les tribunaux des qadis, c'est-à-dire des juges, et des walis, c'est-à-dire gouverneurs. Ce processus a eu une incidence sur les formes selon lesquelles les injustices pouvaient être traitées. Les problèmes soulevés et les plaintes examinées avec les autorités, lesquelles se sont progressivement fixées et définies de manière détaillée qu'on observe dans la documentation. Ce que je suggère donc, c'est que le système de la pétition a connu une forme de redémarrage. Après tout, la conquête arabe a été précédée d'une période de profonde turbulence politique en Égypte, marqué par l'occupation sassanide de 619 jusqu'à 629, la reconquête byzantine, puis la prise de contrôle du pays par les troupes arabes en 642 de notre ère. À cela s'ajoutent les transformations intervenues dans l'organisation civile et les institutions gouvernementales de l'Empire romain à partir du IVe siècle, dont les effets en Égypte ont été largement étudiés. Sous la domination arabe, les autorités ont continué à recevoir des demandes, bien sûr, visant à traiter les conflits et les abus. Et il y avait des offices pour ça, des bureaux pour faire ça. La procédure de présenter ces demandes, y compris les dimensions diplomatiques documentaires, est devenue au fil du temps de plus en plus formalisée. Et elle s'est développée sous l'influence du code socio-moral de réciprocité que j'ai évoqué la semaine dernière. Non pas comme un système entièrement constitué et introduit par les Arabes, ni comme une structure se substituant à ce qui existait en Égypte, mais plutôt comme un ensemble de pratiques en évolution, fondamentalement fluide et pluraliste, et en consistant des applications nouvelles introduites par les Arabes, des origines différentes et des usages locaux. Donc, nous abordons les lettres de requête ou pétitions comme un continuum de lettres relevant d'une même logique morale sociale qui s'inscrivent dans un paysage de justice pluraliste et en constante évolution. En revenant au sujet de la conférence d'aujourd'hui, la question est la suivante. Comment les lettres de pétition s'intègrent-elles dans le système de réparation des injustices? Ou, autrement dit, quels sont les procédés qui sous-tendent la matérialisation des lettres de pétition? J'ai encore utilisé plein des images de manuscrits perses pour avoir un peu d'illustration, même s'ils sont beaucoup plus tardifs. Traditionnellement, la papyrologie, avec son accent sur la philologie et la production d'éditions, de traductions et de commentaires, a eu tendance à abstraire les textes conservés sur papyrus de leur forme matérielle, de leur contexte social de production, d'usage, de réemploi et d'abandon, ainsi que des conditions archéologiques de leur découverte. Une inflexion relativement récente dans ce champ plaide pour un déplacement de perspective, consistant à ne plus considérer les papyri principalement comme des simples supports de contenu textuel, mais à les analyser comme des artefacts matériels inscrits dans des contextes sociaux, économiques, techniques et archéologiques. C'est pour moi un plaisir particulier de défendre ici une telle approche des papyri comme artefacts porteurs de textes, d'autant plus que Yasmine Amori et Jean-Luc Fournet ont joué un rôle important dans ce tournant matériel de la papyrologie. En abordant les papyrus à la fois comme texte et comme objet, cette perspective met en lumière l'interaction entre la forme matérielle, l'usage et le sens dans le façonnement et le remaniement de la manière dont les documents étaient rédigés et se manifestaient en tant qu'objets matériels. Comprendre les papyrus comme des artefacts porteurs de textes invite à une analyse de la manière dont les documents, en l'occurrence des lettres de requête sur papyrus arabes, ont vu le jour. Et pour ça, j'ai utilisé cette image et en bas, on voit quelqu'un qui en fait fait ce lage de papier, qui fait le papier, non? Et toutes les choses qu'un écrivain ou un scribe en a besoin. Toute une série de considérations relatives à la finalité et à la portée envisagée de la lettre aux potentialités et aux limites du capital social et du réseau du pétitionnaire et ou de l'expéditeur, y compris leur relation avec le destinataire, au statut du destinataire vis-à-vis de l'expéditeur et au sein de la société dans son ensemble, ainsi qu'à des conditions techniques et matérielles, telles que la disponibilité des matériaux et des compétences, la distance entre expéditeur et destinataire et les modalités de transmission de la lettre, influençaient la conception initiale de celle-ci, avant même que ne soient envisagées et a fortiori entreprises, les démarches visant à se procurer les matériaux nécessaires à la production de la lettre sur papyrus. En d'autres termes, la conception des lettres de requête arabe sur papyrus précédait largement le processus de production, tout en influençant de manière décisive. Reconnaître l'importance des processus décisionnels qui précèdent l'action humaine sur les matériaux n'implique pas de nier l'impact ultérieur des contraintes techniques et économiques ni celui des interactions sociales, cognitives et idéologiques intervenant au cours du processus de production et lors de la manipulation ultérieure des lettres sur papyrus. La conception et la production d'une lettre de requête arabe sur papyrus commençaient évidemment par le signalement d'un problème à résoudre. Une solution ayant été identifiée, la question se posait de savoir comment celle-ci pouvait être obtenue. Dans certains cas, une autre personne était identifiée comme étant capable de contribuer à la réalisation de la solution envisagée, voire d'y jouer un rôle déterminant, ou même d'être le seul qui pouvait solver la solution. Il valait alors décider comment convaincre cette personne de fournir la solution recherchée ou d'y apporter son concours. Pouvait-on s'adresser à elle directement ou valait-il passer par un intermédiaire? Quelle était la nature des relations entre le pétitionnaire, l'intermédiaire, le cas échéant, et le destinataire de la requête? Et en quoi ceux influaient-ils sur leur échange? Un intermédiaire pourrait être choisi pour une relation étroite, mais aussi pour une relation hiérarchique ou dominante avec le requérant, pour des raisons pratiques ou en raison de sa fonction ou de sa position professionnelle. Après, la question se présente, était-il préférable d'approcher l'approcher en personne ou convenant-il de recourir à un document écrit? Quant aux lettres, qui sont tout ce qui nous reste de ce processus, il convient de décider les modalités de composition et apparence de la lettre, le choix de la langue et des supports matériels. La détermination de la personne la plus apte à la rédiger, celle qui devait ou pouvait l'acheminer, ainsi que la question de savoir si la lettre sera accompagnée d'un message oral et, le cas échéant, qui sera chargé de la transmettre. Il faut se rendre compte que ce n'était pas seulement la préférence du pétitionnaire qui déterminait la forme de sa demande. Au-delà des conditions physiques et économiques, telles que la location du pétitionnaire par rapport au pétitionné, la disponibilité de compétences des matériaux ou encore le marché du papyrus, des intermédiaires ainsi que leur volonté, le pétitionné et d'autres intervenants pouvaient également jouer un rôle. Et on va voir ça. Et j'ai choisi ça parce que je pense, lui, il a une lettre, peut-être pas pétition, mais il y a quelque chose, le calame encore dans son main. Mais pourquoi écrire en arabe? Lorsque les Arabes arrivèrent en Égypte, deux langues étaient en usage. Le grec, principalement utilisé dans l'administration, mais aussi comme langue d'usage quotidien pour une partie de la population, et le copte, c'est-à-dire la langue égyptienne dans sa forme la plus récente, qui était la langue de la majorité de la population dans la vie privée, mais servait de plus en plus également à des fins juridiques et administratives. Les Arabes y ajoutèrent l'arabe comme langue de l'administration et des communications privées, les lettres que Youssef Rareb a publiées, au moment de la conquête, tout de suite en fait, tout en maintenant l'usage du grec et du copte dans l'appareil administratif. Évidemment, les deux langues continuent aussi dans le domaine privé. L'arabe n'était jamais imposé ni dans l'administration ni dans la vie privée, mais certaines politiques centralisées au niveau du califat et du province quand même conduit à une augmentation de son usage. Il est néanmoins clair que les Égyptiens étaient en mesure de naviguer dans les documents arabes, qu'il s'agisse d'avis d'imposition, de reçus fiscaux, de documents juridiques ou même de lettres et documents commerciaux et privés. C'était le cas avant l'adoption complète de l'arabe comme langue dominante et aussi après pour ceux qui communiquaient plutôt dans d'autres langues. Le multilinguisme, y compris des variations dites dialectales de langue, était beaucoup plus répandu que d'aujourd'hui. Les Égyptiens utilisaient-ils l'arabe donc pour leurs lettres de pétition? Cela dépendait à la fois du pétitionnaire et du pétitionné. Les communications avec les autorités juridiques islamiques, dans la mesure où elles étaient disponibles, et des autres institutions arabes comme l'armée, se sont déroulées dès le départ en arabe. À la fin du 8e siècle, l'administration adopta l'arabe pour ses communications épistolaires. Ainsi, pour s'adresser aux autorités, une lettre en arabe devenait nécessaire. Mais avant, donc, c'était possible en grec ou en copte. À la même période, des arabophones commencèrent à s'installer dans la campagne égyptienne, donc la fin du 8e siècle. Et pour s'adresser à eux, on utilisait également surtout l'arabe. C'est à ce moment que les documents arabes devinrent les plus nombreux, dont la plupart sont des lettres. Aussi les Égyptiens qui ne maîtrisent pas l'arabe, mais en avaient besoin pour leurs pétitions et autres écritures, pouvaient recourir bien sûr à un traducteur, à un scribe ou à un autre intermédiaire, comme ils le faisaient pour des autres langues et pour lire les documents, aussi en arabe. Donc quelqu'un privé ou commercial. Nous retournons au sujet de scribe plus tard. Il valut encore quelques siècles avant que l'arabe ne devienne dominant comme langue écrite dans la campagne égyptienne, et plus longtemps encore avant qu'il ne devienne la principale langue de communication orale. Il existait en effet de nombreux pétitionnés potentiels que l'on pouvait encore approcher dans les autres langues présentes en Égypte. Il y a eu donc une période de chevauchement entre les lettres en arabe, en grec et en copte. Et il y a eu sans doute une interférence entre ces traditions. Mais il y avait aussi des différences. Donc récemment, j'ai examiner en fait les lettres qui sont envoyées à les autorités pour demander d'être exclus ou qu'une de les fils ou enfants des Égyptiens peut être exclu ou retiré de travail de corvée donc forcé. Et on a ces lettres, bien sûr, en grec du archive de Senoutios, mais on les a en arabe, les mêmes lettres, sorte de lettres, genre de lettres, en arabe un peu plus tardif. Je vais les discuter la semaine prochaine. De même, les Égyptiens pouvaient interagir avec l'écrit, même lorsqu'ils étaient eux-mêmes incapables de lire et ou d'écrire. Les chercheurs reconnaissent aujourd'hui l'existence de multiples degrés de compétences graphiques, ayant de la capacité à reconnaître son nom dans un texte autrement opaque, jusqu'à la rédaction de lettres élaborées, tant dans le style que dans l'argumentation. Ici, vous voyez un contrat datant de l'année de l'Égypte 284, ça veut dire 901 de notre ère, signé par des témoins qui avaient de différents niveaux de maîtrise de l'écriture. Mais nous ne savons pas comment était leur niveau de lecture respectif. Et cela dépassait le cadre de documents utilitaires, englobant également d'autres formes de textes écrits auxquels ils étaient exposés dans leur environnement quotidien. L'Égypte, dans cette période, constituait une société où la pratique de l'écrit occupait une place importante dans la vie sociale et administrative, bien que la majorité de la population demeurât illettrée ou partiellement lettrée. Nous ne disposons que de témoignages écrits de l'histoire, ce qui peut induire, de manière trompeuse, qu'il constituait le seul ou le principal mode de communication. La plupart des activités quotidiennes, y compris les demandes et les livraisons de biens, de nouvelles et d'assistance, étaient traitées en personne, soit directement par la personne qui en prenait l'initiative, soit par un intermédiaire agissant en son nom. Aussi, les problèmes étaient, pour la plupart, sans doute résolus oralement, entre les parties concernées ou en sollicitant l'aide de quelqu'un. Même les cas qui ont finalement donné lieu à une lettre comme celle que nous étudions ici, comportaient sans doute une phase initiale orale, ainsi qu'une interaction continue avec les paroles. Ce n'est que lorsque les circonstances l'exigeaient qu'une lettre était rédigée. Et c'est vers ce point que nous tournons maintenant. Dans ce qui suit, nous examinerons les lettres en tant qu'objet et tant que texte, afin d'analyser les stratégies de persuasion lesquelles mobilisaient des éléments à la fois matériels, rhétoriques, linguistiques et sociaux. Dans certaines circonstances, un document écrit était requis quand ce n'était pas possible, facile ou opportun de visiter celui qui a prié. Par exemple, quand on est en prison. Comme nous savons du travail de Mathieu Tellier, que les prisons étaient beaucoup plus ouvertes qu'on peut s'imaginer peut-être. Examinons cette lettre qui a été envoyée par Hafs, fils d'Amrous, dans le 8e ou 9e siècle. L'explication de son cas par lui-même est indiqué en jaune sur l'écran. Il écrit que des cultivateurs en Baat l'empêchent de quitter la prison où il est détenu en raison d'une dette impayée envers eux. Apparemment, les cultiveurs et Hafs étaient parvenus à un accord concernant cette dette en présence du destinataire, une sorte de figure d'autorité qui n'est toutefois identifié ni par son nom, ni par son titre dans la lettre. De ce fait, Hafs a été emprisonné jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Hafs a proposé de fournir un garant pour régler sa dette envers les cultiveurs, mais ceux-ci ont rejeté cette proposition. On ne sait pas pourquoi les cultiveurs ont refusé. Peut-être avait-il eu de mauvaises expériences avec des garants ou avec ceux proposés par Hafs. Il est également possible que ce soit Hafs lui-même qui ait manqué à l'accord conclu avec les cultiveurs par avoir proposé d'introduire un garant, pas pour payer son dette, mais de présenter des preuves qui annuleront la même dette. Évidemment, il est aussi envisageable que Hafs ne dise pas la vérité dans sa lettre. Pour le moment, c'est seulement le mot de Hafs que nous avons. Dans tous les cas, Hafs écrit maintenant à cette membre de même figure d'autorité pour lui demander d'insister, voire d'exiger que les cultivateurs acceptent son garant. Les formulations de demande sont indiquées en bleu. Il appuie, en vert, sa demande en affirmant que lui et sa famille sont pauvres, un argument qu'il répète presque comme une idée de dernière minute à la fin de sa lettre. De plus, Hafs soutient que ses proches dépendent de lui pour subvenir à leurs besoins. Tant qu'il sera en prison, il ne pourrait pas le faire. Il s'agit assurément d'une demande adressée à une figure d'autorité, quelqu'un qui intervient en cas de dette impayée, qui fait incarcérer les débiteurs défaillants et qui supervise leur libération. On ne peut que penser à la liste des prisonniers du Fustat Abbaside publiée par Mathieu Tellier et Naïm Fentighem. Ces listes de prisonniers pour dette indiquent qu'ils sont libérés après avoir présenté une lettre de pétition. Qu'est-ce que ça ? Ici, c'est Bataka, mais qu'est-ce que ça a le même sens ? Afin d'obtenir leur remise en liberté. Parmi eux, il y a aussi quelqu'un qui a eu recours à un garant. La lettre ne porte pas d'adresse au verso, mais le papyrus a été réutilisé pour une liste de noms, parmi lesquels figure également un groupe désigné comme les habitants de Kous, Al-Kous, une ville située près de Luxor. Le but de ces petites notes ou listes reste inconnu, mais elles semblent avoir une fonction administrative. Il est frappant de constater que la liste des prisonniers publiée par Tellier et Fentighem était elle aussi en partie écrite au verso d'une pétition adressée au gouverneur. L'administration arabe en Égypte utilisait donc les papyrus reçus sous forme de lettres de pétition, ensuite pour le document administratif interne. Cela jette une lumière intéressante sur la pratique consistant à écrire sur du papyrus usagé dans la chancellerie, où l'on pourrait imaginer pourtant que le matériau ne manquait pas. Nous savons déjà que l'administration arabe vendait de temps en temps des papyrus usagés pour utilisation par d'autres. Mais cette réutilisation intervenait également, auparavant, au sien même de la chancellerie. Une autre lettre de pétition a ensuite été utilisée pour un contrat de bail foncier daté de 180, ça veut dire 796 de notre ère. Elle montre l'écrit et l'oral vont souvent ensemble. Elle montre comment l'écrit et l'oral vont souvent ensemble dans le contexte de lettres de pétition. La pétition ne mentionne que la situation pénible du pétitionnaire. Il s'agit d'une personne pauvre qui n'a d'autre soutien que Dieu et le destinataire. Il ou elle demande que celui-ci examine son cas, sans préciser en quoi consiste exactement son problème, ni quelle solution il ou elle recherche. On peut donc penser que, dans ce cas, le pétitionnaire était présent pour fournir une explication orale. Inversement, il n'est pas clair, d'après le texte, que cette lettre a été adressée à un agent fiscal, comme les éditeurs l'ont affirmé. L'utilisation des formules de requête polie, telles que « si vous jugez bon », la présence des arguments de persuasion invoquant la pauvreté et l'isolement du pétitionnaire et l'absence de référence à une relation personnelle entre les correspondants semble avoir convaincu les éditeurs pour situer cette lettre dans un contexte administratif ou gouvernemental. Le contrat de bail foncier au verso de ce papyrus, qui était publié plus tardif, dernièrement par Gladys France Murphy, suggère toutefois un contexte administratif pour la circulation de la pétition tant que papyrus recyclé. Le locataire du terrain est Sabah Maula du gouverneur Moussa, fils de Issa. qui était lui-même responsable de l'administration fiscale du Fayoum et de ses districts. Il s'agit donc peut-être d'un troisième cas de lettre de pétition envoyée au service administratif qui est ensuite réutilisée pour une fonction interne secondaire, de nature administrative ou semi-administrative, par un représentant du gouvernement. Pour illustrer l'évolution du format et de la procédure des demandes de réduction d'impôts adressées au gouvernement, je vous présente une pétition du IXe siècle, envoyée à un amir. Jeffrey Kahn l'a publiée. Dans la marge supérieure, les mots « ses serviteurs et ses esclaves » Khuddamuhu wa abiduhu, que Werner Diem pouvait lire, s'inscrit ce papyrus dans le cadre de la procédure de pétition abbasside dont nous avons déjà parlé parmi le travail de Naïm et Mathieu. Il y a d'autres exemples de ça. Le pétitionnaire écrit « L'émir sait combien nous avons souffert cette année » de maladies et de difficultés. Nous avons été détenus en prison et empêchés de travailler dans le pays. Cela provoqua une détresse générale, c'est plus la citation, donc il parle de cette détresse générale, mais entraîna aussi la perte de la récolte. La lettre contient des formules qu'on rencontre souvent dans des lettres de pétition. L'amir n'est pas ignorant et l'amir sait que lam yakhfal ala l'amir ou l'amir ya'lamu introduisent l'exposito. Et ça, on trouve souvent que ça commence avec j'informe ou dans ce cas, l'amir sait que. Et aussi, bien que juge bon au sujet de notre affaire. Faraya ka fi amrina. Et examine notre affaire. Faunzor fi amrina. Et ça, sont des formules de requête polies connues. Néanmoins, cette demande ouverte, regarde notre affaire, il est clair que le suppliant espère une remise d'impôt ou un report. Parce qu'il écrit aussi, l'amir sait que nous ne lui avons jamais rien demandé, mais que nous avons toujours acquitté en totalité les impôts agricoles. » Fin de la citation. À la fin, il ajoute pour souligner la situation désespérée dans laquelle il se trouve, et je cite encore, « Nous sommes dans la difficulté et le malheur, et parmi nous, par Dieu, il y en a qui ne trouvent rien à manger. » C'était donc une lettre écrite pour un ensemble de victimes, comme indique aussi le note en marge. Mais il existait également d'autres moyens de parvenir à une réduction d'impôts. Le papyrus suivant remonte à une époque antérieure, à savoir le 8e siècle. Cette demande d'assistance pour le paiement des impôts est appuyée par un intermédiaire, lequel occupe manifestement une position hiérarchique par rapport au destinataire, qui peut être quelqu'un qui travaille dans le fisc, dans le bureau des impôts. Après une introduction très brève, qui ne contient même pas une basmala complète, l'expéditeur enjoint directement Abu al-Hakam. Donc ça, c'est le destinataire. Accorde une faveur à Batik, à savoir en réduisant le paiement de 3 dinars dû lors de sa prochaine échéance fiscale, Batal. Et tout tourne sur ce mot. Batik s'était rendu auprès de l'expéditeur au sujet de sa dette. Celui-ci décida alors de rédiger la présente lettre afin de solliciter de l'aide, offrant en contrepartie, semble-t-il, 5 pièces d'étoffe que le destinataire souhaite obtenir. Abu al-Hakam n'était pas le seul agent fiscal à être soumis à des pressions ou à recevoir des présents, des cadeaux, pour venir en aide aux pauvres tels que Batik. On trouve le même procédé un siècle plus tard. Les deux papyrus suivants sont publiés par Albert Dietrich et Werner Diem a amélioré les éditions d'une manière significante. Je ne pense pas que j'ai une image. Dans la première lettre, l'expéditeur insiste avec urgence que le destinataire plaide leur cause auprès du bureau des impôts, où ils doivent une somme importante en impôts et amendes. Si tu fais des histoires, l'arabe utilise « taharraka », bouger, concernant notre affaire, nous pouvons continuer à habiter à Armand. Si c'est différent, cela veut dire que nous devons évacuer. فإن تحركت في أمرنا سكن أرمانت وإن تكون الأخرى فهو جلع فهو جلعنا. Le racine jim lam wow pour jalauna est utilisé dans les papyrus pour les fugitifs fiscaux et c'est exactement le sens de ce dit l'expéditeur. Si les percepteurs d'impôts ne nous accordent pas d'allègement, nous prenons la fuite. Le pétitionnaire souligne sa dépendance et sa confiance envers le destinataire pour l'aider par ajouter « Nous comptons sur Dieu et sur vous ». L'autre lettre date entre 870 et 900 de notre ère. Dans ce cas, le contribuable tente même de contourner les voies officielles de réclamation en faisant intervenir un tiers. Celui écrit que le pétitionnaire n'est pas allé voir Abu Abdallah Muhammad ibn Abi Hakam, sûrement quelqu'un responsable dans le bureau du fisc. Il explique, et je cite, « Puisqu'il sait que toi et moi entretenons une relation étroite, je souhaite donc que Dieu te fortifie, que tu veilles sur lui et que tu prennes soin de son besoin, car il doit l'impôt foncier. Et je souhaite que Dieu prolonge ta vie, que tu ordonnes qu'on lui témoigne bienveillance et patience afin qu'il puisse payer l'impôt assément, sans contrainte. En agissant ainsi, tu me ferais une faveur dont je te serais reconnaissant. J'ai aussi écrit à Abu Ja'far sur le même sujet. Ces exemples montrent bien les différents chemins empruntés par les personnes dans le besoin pour atteindre leur objectif, agissant parfois verbalement, parfois par écrit. Cette lettre datant du IXe siècle sert de suivi ou de rappel d'une conversation antérieure. L'expéditeur demande au destinataire de parler auprès d'une tierce personne pendant l'Eid, la fête, prochaine, sans spécifier le sujet de la conversation prévue. Sûrement, ce qu'était le problème et quelle solution convient à l'expéditeur était communiqué à une occasion précédente. On ne sait pas pourquoi l'expéditeur n'était pas capable de venir parler à Abu al-Qasim lui-même. Mais il insiste avec véhémence que le destinataire intervienne pour lui. L'oral et l'écrit se rejoignaient aussi, appuyant ou clarifiant la position du requérant et pour des autres buts dans de différents stades de soulever des problèmes. Mais les lettres ne servaient pas seulement des objectifs pratiques. Elles offraient aussi l'occasion de faire preuve d'éloquence épistolaire et de produire des objets de grande beauté, ce qui contribuait à la force de persuasion de la demande. Cette lettre est écrite sur un impressionnant morceau de papyrus blanc mesurant 21,5 par 11,5 cm. Les marges sont larges et quelques lettres sont élongées. Il est frappant que la lettre de pétition est écrite parallèle aux fibres, même si les scribes arabes écrivent généralement d'abord perpendiculairement aux fibres. L'orientation verticale était le standard de la fin du 8e et dans le 9e siècle en contraste avec le format horizontal des lettres privées du 1er siècle. Oui. Nous avons déjà rencontré cette lettre la semaine dernière. Examinons examinons-la de plus près. Comme je l'ai déjà mentionné, cette lettre a été rédigée avec soin quant à son contenu et avec souci d'enseigner l'apparence. Elle date du 9e siècle de notre ère. Il s'agit d'une lettre de recommandation en faveur de la personne qui la remet. L'expéditeur et le destinataire se connaissaient manifestement bien et s'exprimaient en termes familiers. Les références à leur correspondance suivie, au début comme à la fin de la lettre, le confirment. Il est demandé au destinataire de transmettre des salutations à des tiers, parmi lesquels figure notamment un message assez peu amen, adressé à un certain Abul Hussein. Le porteur de la lettre est, écrit l'expéditeur, un scribe des plus compétents, tant pour la rédaction des textes que pour les calculs. Cette personne talentueuse a grand besoin d'un emploi rémunéré pour subvenir à ses besoins. Engagez-le, suggère l'expéditeur au destinataire, ou bien usez de vos relations pour lui faire obtenir une fonction ailleurs. Le rédacteur utilise des formules et des expressions bien connues des lettres de pétition afin de formuler des demandes et de la renforcer par la répétition. Enfin, il présente à la destinataire les récompenses qui découleront de l'aide apportée au scribe et porteur de la lettre. Les récompenses promises par Dieu à ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions, que l'expéditeur inclut dans les salutations liminaires, constituent une bénédiction remarquable à référence coranique. Dans le Coran, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres se voient en effet promettre des récompenses spécifiques dans plusieurs lieux. La formule est ici sans doute employée pour souligner l'obligation morale du destinataire d'accomplir la bonne action consistant à venir en aide aux scribes et porteurs de la lettre. Si on tourne vers l'aspect matériel de la lettre, il apparaît clairement que le scribe a eu recours à plusieurs procédés pour appuyer sa demande. La lettre est disposée de manière soignée, avec une écriture de grande taille sur un large morceau de papyrus propre. Il a tracé ses formes de lettres avec attention, selon un style anguleux agaissant, mais aussi en recourant à des formes cursives plus tardives, qui trahissent la datation relativement récente de cette lettre. Une autre procédé utilisé par le scribe consiste en l'insertion d'espaces vides à la fin de phrases formant chacune une section de la lettre. Enfin, un dernier procédé consiste à allonger certaines lettres marquant le début d'une nouvelle section du document. Ainsi, cette lettre appuyait la recherche d'un emploi rémunéré par le scribe, qui en était également le porteur et qui, sans aucun doute, développait lui-même oralement le contenu de la missive. La lettre constituait une présentation soignée, tant par son écriture que par sa composition, de la requête d'aide formulée par le scribe. On peut s'imaginer qu'il était produit par le scribe lui-même, comme une sorte de lettre de candidature. La force de la lettre ne résidait pas seulement dans sa forme et son contenu, mais tirait également sa vigueur des relations sociales dans lesquelles elle circulait. L'expéditeur entretenait une relation amicale et intime avec la destinataire, comme en témoignant les salutations et les références à une correspondance suivie. Le scribe a peut-être demandé cette recommandation écrite exactement pour sa fonction efficace. Il est toutefois également possible que la lettre a été rédigée à l'initiative de l'expéditeur, qui a choisi de mobiliser son réseau plutôt que de résoudre lui-même le problème du scribe, par exemple en lui offrant directement un emploi. Il attendait du destinataire qu'il engage le scribe et porteur de la lettre ou qu'il fasse appel à ses propres relations pour lui trouver un poste. Il est donc tout à fait possible que le scribe soit bientôt à nouveau en route, cette fois-ci avec une lettre de recommandation du destinataire. La lettre fut remise par la personne dans le besoin, ce qui est parfaitement logique dans ce cas. puisqu'elle était elle-même en quête d'un emploi. Comme nous avons vu, les lettres de pétition ne contiennent pas toujours toutes les informations nécessaires à la résolution du problème. Il est donc probable que les requérants étaient disponibles pour compléter oralement leur contenu et qu'ils remettaient eux-mêmes ces lettres en main propre. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, la lettre de recommandation a ensuite été découpée afin qu'une autre lettre de pétition, demandant un soutien matériel pour faciliter le voyage de l'expéditeur Verhofstadt, puisse être écrite au verso. Comme vous le remarquez, cette lettre est rédigée dans une écriture beaucoup plus cursive, dépourvue de lettres soigneusement tracées et allongées. Elle présente néanmoins une mise en page très soignée, avec des espaces vides et même des interlignes sensiblement plus larges qui signalent les différentes parties du texte. Le mot final, Kutiba, est centré au milieu de la ligne. Le texte de la lettre présente lui aussi à des caractéristiques intéressantes. Une fois encore, le rédacteur met en avant la relation d'interdépendance intime et ancienne qui le lie au destinataire, qu'il appelle « mon frère », terme qui renvoie ici à une relation d'affaires plutôt qu'un lien de sang. « Quand Azimat Yadouka Indi, ta main pèse lourdement sur moi », écrit l'expéditeur. C'est-à-dire, tu m'as déjà grandement obligé en m'accordant des faveurs par le passé et m'apportant ton aide auparavant. Mais dans ce contexte, le sang est plutôt « on a quelque chose en cours entre nous » et donc il convient que tu m'aides. Quand même, l'écrivain employait des formules de requête polie bien connues et conclut sa lettre par l'expression « Kutiba ». Particulièrement intéressantes sont les récompenses que l'expéditeur promet au destinataire. Dieu en sera assurément satisfait en donnant une récompense, mais l'expéditeur lui-même louera et remerciera également le destinataire. Il s'agit là d'une allusion directe aux obligations et aux services futurs que l'expéditeur contractera à l'égard du destinataire à la suite d'une réponse favorable à sa demande d'aide. Mais l'expéditeur recourt aussi à un autre argument, presque impossible à ignorer. Dans ses salutations liminaires, il demande à Dieu de disposer le destinataire à considérer favorablement sa requête, afin qu'il puisse lui être reconnaissant. Il s'agit là d'une proposition qu'il devait être très difficile de refuser. Il reste à déterminer si les requérants sollicitant un soutien matériel, comme notre écrivain ici, et il y a des autres exemplaires, choisissaient délibérément d'écrire leur lettre de pétition au verso de papyrus déjà utilisé pour souligner leurs besoins. L'usage de papyrus, en même temps déjà employé, semble avoir été en général désapprouvé. L'auteur de la lettre suivante semble avoir tenté d'effacer le verso déjà utilisé du papyrus avant de l'employer pour écrire sa propre lettre, très urgente. Une autre lettre de pétition que j'inclurai dans mon édition témoigne de la même pratique. Je ne discuterai pas plus avant cette belle lettre dans laquelle quelqu'un s'adresse au destinataire afin, et je cite, d'être enfin libéré des visites quotidiennes de la messagère de la femme d'El-Khattab. Les exemples de réutilisation du papyrus dans la chancellerie arabe, que j'ai présenté plus haut, aussi surprenant soit-il, tombent, on peut dire, dans une autre catégorie de lettres. Inversement, un grand nombre, voire la plupart, des documents arabes sur papyrus conservés, qu'il s'agisse de lettres, de contrats juridiques ou d'autres types de documents, sont écrits sur les deux faces du papyrus, qui suggère qu'il s'agissait d'une pratique bien courante. La prochaine lettre est aussi écrite sur un papyrus recyclé. C'est un autre exemple d'intercession qui date du IXe siècle. Elle a été rédigée au verso d'une autre lettre qui a été découpée afin de s'ajuster à celle-ci. La lettre au recto est écrite à un angle de 40, 89 degrés par rapport à celle du Verseau. Et peut-être c'était pour signaler une différence. L'expéditeur écrit pour le compte de celui qui remet la lettre. Un homme en position de faiblesse dont l'épouse s'est enfuie en emportant des biens appartenant à son mari. La mention du frère pourrait constituer une indication donnée au destinataire quant aux démarches qu'il est censé entreprendre pour aider cet homme dans sa requête. Que ce soit pour récupérer ses biens, retrouver son épouse ou atteindre un autre objectif que le porteur de la lettre expliquerait lui-même de vive voix. Outre les formules de requête polie bien connues, signalées en bleu, l'expéditeur ajoute un argument remarquable pour appuyer sa demande, indiqué ici en orange. La formulation singulière « cela relève des choses que l'on ne doit pas négliger » exerce une pression manifeste sur le destinataire. L'intérêt d'utiliser un intermédiaire pour les pétitionnaires est évident. Cela leur donnait accès à celui qui pouvait les aider et l'échange de faveurs ne que renforçait la relation entre eux. Comment c'était pour l'intercesseur? La mobilisation de son réseau social et de son statut au profit d'autrui pouvait s'avérer avantageuse en ce qu'elle donnait lieu à des relations d'obligation et de dépendance entre le suppliant et l'intercesseur. Elle permettait également de confirmer des relations de fidélité déjà en existence. L'intercesseur, toutefois, exposait aussi au risque ses bonnes relations avec la personne à laquelle il relayait la demande du suppliant. Une perte de face, tant pour celui à qui la demande était adressée que pour l'intercesseur, en déclenchant tous les risques pour la relation, demeurait toujours possible dans le cas où une aide ne pouvait être apportée ou une requête honorée. La précarité de ces interactions ainsi que la multiplicité des personnes susceptibles d'y être impliquées sont bien illustrées par une lettre datant du 8e ou 9e siècle, éditée par Lucien Reinfant, dans laquelle un intercesseur, celui ici en rouge, intercesseur 1, qui est donc aussi l'expéditeur de la lettre rouge, qui est la même que nous voyons ici sur papyrus, rend compte à la personne pour laquelle il a plaidé dans un réseau de relations. Celui est le pétitionnaire ici en bleu, qui est le destinataire de la lettre sur papyrus. L'intercesseur avait commencé par transmettre la lettre du suppliant, c'est la lettre 1, la première lettre dans l'image, à un certain Abou Ahmed. Celui est donc le deuxième intercesseur, ici en violette. Apparemment, on lui demandait de mobiliser ses propres contacts afin d'approcher une autre personne nommée Abou Khalaf, le vrai pétitionné, ici indiqué en violet encore. « J'ai remis ta lettre chez Abou Ahmed, que Dieu prolonge sa vie, et j'attendais avec impatience sa réaction positive, Rayahou. Il vient de m'informer qu'il parlera à Abou Khalaf, que Dieu le protège, à ce sujet. L'interaction entre Abou Ahmed et Abou Khalaf se déroulera donc en personne par parole. L'intercesseur... Oh, il a perdu des choses. Ok. J'avais encore beaucoup de... Oh, les lettres sont toutes disparues. Pardon. L'intercesseur souhaite désormais que le suppliant agisse lui aussi, à la fois pour faire avancer sa propre affaire en entrant en contact avec Abou Ahmed et pour préserver sa propre relation, ça veut dire de l'intercesseur avec ce dernier. Je voudrais que tu donnes ordre à quelqu'un de lui écrire pour le remercier de cela, afin que ton droit soit pleinement rétabli. C'est la troisième lettre en bleu, qui on ne voit pas, c'était là. Pardon. Qui est le destinataire de la lettre nous discutons à Abou Ahmed. Elle est indiquée avec une flèche interrompue, car elle n'existe pas encore. À présent que son rôle d'intermédiaire a été mené à bien, l'intercesseur entend s'assurer que Abu Ahmed sache que la demande ne provient pas de lui et qu'il n'est pas lui-même concerné par sa résolution, mais qu'elle relève entièrement du suppliant. Même si c'est moi qui t'ai suggéré de lui envoyer une lettre pour le remercier, il saura que c'est toi qui as besoin que cette affaire soit prise en charge et que le besoin est véritablement le tien. Ok, à propos, ce papyrus présente un autre cas de réemploi. En l'occurrence, la lettre a été écrite au verso d'un conte et l'expéditeur se rend compte dans ce cas que ce n'est pas comme il faut parce qu'il commence sa lettre « Pardonne-moi pour le papyrus ». La lettre nous donne aussi des informations précieuses sur l'utilisation de scribes par des expéditeurs. Je voudrais que tu, que Dieu prolonge ta vie, ordonne quelqu'un de lui écrire, donc d'écrire à Abu Ahmed. C'est ça que l'expéditeur écrit. فَأُحِبُّ أَبْقَاكَ لَا أَنْ تَعْمُرَ بِالْكِتَابِ. Les lettres de pétition en arabe ne suivent pas le même format complexe et élaboré dont le respect strict serait indispensable à leur acceptation et que ne pourrait qu'être dirigé par des professionnels que les pétitions romaines. Néanmoins, pour être efficace, les lettres devaient suivre des règles, placer la demande au centre pour la faire ressortir, inclure des formules de requête qui, malgré leur diversité et l'absence de formules fixes, suivaient les règles de politesse et des interactions sociales et institutionnelles entendues. Présenter des arguments convaincants. Tout cela devait être adapté au contexte, à la délicatesse de la demande et à la relation entre les correspondants. On pourrait soutenir que l'absence de format fixe et de modèle préétabli permettant une plus grande liberté dans la composition de lettres de pétition, conférait en fait un poids accru aux compétences du scribe pour élaborer la formulation la plus efficace. Il ne suffit pas de suivre des règles prescrites de mise en forme du document, de langue et de la formulation. Le champ était largement ouvert et seul un scribe maîtrisant les différents registres linguistiques qui est capable d'intégrer des références religieuses et sociales pertinentes, était en mesure de déployer la rhétorique épistolaire de la manière la plus efficace. Il en allait de même pour l'écriture. Certaines lettres présentent une graphie plus travaillée, presque calligraphique, ce qui supposait un script plus qu'exercé. Comme Eva Grob l'a très bien montré dans son ouvrage sur les lettres arabes du papyrus, celles-ci se caractérisent par une culture d'oralité qui accorde la primauté à l'énonciation de textes. Les lettres étaient lues à voix haute et composées par dictée ou une autre forme d'interface orale. Elles constituaient ainsi un stade intermédiaire entre l'état oral des paroles de l'expéditeur et celui de ces mêmes paroles entendues par le destinataire lorsqu'il les lisait à voix haute. Cette situation a eu un impact fondamental sur la langue des lettres. Les ajouts a posteriori, les insertions et les changements de sujet en cours de phrase sont particulièrement fréquents dans les lettres privées et commerciales, mais se rencontrent également dans les lettres de pétition. Nous avons observé dans la première lettre examinée, celle du prisonnier Hafs, fils d'Amrous, qu'il ajoutait, apparemment en guise de post-scriptum implicite, un dernier argument. Car nous sommes vraiment pauvres. Wa nahnu masakin. On retrouve ce procédé dans de nombreuses lettres de pétition. Cette lettre magnifique, datée du 9e siècle et adressée à un amir, combine une lettre de candidature avec une plainte dirigée contre l'un des hommes de l'amir. C'était publié par Jeffrey Kahn. Le suppliant se recommande comme pèlerin substitut à la Mecque. Il s'agissait d'une institution bien connue, Batl al-Hajj ou Wakil al-Hajj, ici c'est Wikala, d'accomplir le pèlerinage au nom d'autrui. L'auteur de cette lettre exerçait cette activité comme un métier pour le père du destinataire ainsi que pour son ancien maître. Il est en effet un affranchi. Depuis les jours où il m'a affranchi, c'est une citation, j'ai travaillé comme pèlerin substitut, écrit-il. Et plus loin, dans sa lettre, il souligne sa grande expérience dans ce genre de travail. J'accomplirai le pèlerinage à pied, ce que j'ai déjà fait à deux reprises auparavant. Une fois pour Dieu, ça veut dire pour lui-même, et une fois pour le Père. Parce qu'on ne peut pas faire ça sans l'avoir fait le pèlerinage à Mecque pour soi-même. La rémunération de ses services consiste en une contribution à l'entretien de son foyer. La demande de l'employé et le rémunéré est formulée au moyen de formules de requête polie. Si l'amir, que Dieu le préserve, juge bon de me donner quelques produits et de me l'envoyer afin que je puisse éviter le manque pour ma famille, car j'ai 5 enfants qui dépendent de moi. Après les salutations finales, l'expéditeur ajoute une plainte concernant l'un des affiliés de l'amir, qui, selon lui, pratique des prix excessifs pour ses marchandises. Sans expression de politesse dans ce parti, il ajoute de manière abrupte « Tu devrais le déplacer vers un autre endroit. » Très différent est la lettre que pourrait être celle que l'expéditeur de la lettre que nous venons d'examiner avec les relations compliquées et les flèches et les lettres qui n'étaient pas sur l'écran, demandait au destinataire d'envoyer à son bienfaiteur Abu Ahmed. Cette lettre, donc un autre exemple, mais qui semble à moi comment ça peut être été, cette lettre a manifestement fait l'objet davantage de réflexion et d'attention, peut-être avec l'aide d'un professionnel, bien qu'elle ne soit pas adressée à un fonctionnaire de l'administration, mais plutôt à un partenaire commercial. C'est donc une lettre sur papyrus datée entre 860 et 945 de notre ère, éditée encore par Albert Dietrich avec des corrections par Bernardine. L'expéditeur remercie son patron pour les faveurs accordées à son protégé. « Je suis ton protégé et ton associé. » Il semble que le destinataire a aidé l'expéditeur l'année précédente à obtenir le soutien d'un certain Aboul Hussein contre, et je cite, « ce scribe qui me hait et en raison de l'attention dont tu m'entoures et qui, pour cette raison, nourrit des préjugés à mon égard. » L'expéditeur inclut un long remerciement pour l'affection que le destinataire lui a témoignée. Je n'ai éprouvé de ta bienveillance que du bien et ta bienveillance m'oblige grandement. De plus, je t'ai informé que Dieu te soutient de ma situation et de mon fardeau, afin que tu obtiennes une récompense en recevant ce à quoi je suis obligé. Ma'ana alayhi. Comme je l'espère, si Dieu le veut, pour toi dans les jardins bénins. Et voilà, le cycle d'échange de faveurs continue. Pour conclure, les lettres de requête sur papyrus arabe résultaient d'une série de choix contingents et de pratiques épistolaires et matérielles, depuis leur conception jusqu'à leur réemploi et leur mise au rebut. Nous avons vu coexister de longues épîtres élaborées et de notes brefs à l'écriture et aux langues minimaux. La formule « si tu juges bon » de Enraïta ou Rayaka est fréquente, sans être distinctive, puisqu'elle apparaît aussi dans des demandes ordinaires. Ces lettres s'inscrivent dans l'institution sociale de la pétition en Égypte islamique, sans en constituer le cœur. La plupart des interactions restaient orales. Même intégrées au processus, elles s'articulaient avec des phases orales. L'écrit avait ainsi une qualité foncièrement vocale, les lettres formant une intermède entre dictation et lecture à voix haute. L'oral et l'écrit interagissaient constamment. Demandes discutées, arguments élaborés et négociations menées avec l'intercesseur ou intermédiaire et autorité, parallèlement ou en complément de l'être. Leur abondance et leur variété montrent néanmoins une société, donc l'abondance de l'être et leur variété montrent néanmoins une société pleinement à l'aise avec l'écrit. Les scribes jugeaient un rôle clé, choisissant avec soin le registre linguistique, les formules, les bénédictions et les références religieuses et sociales afin de présenter l'affaire de la manière la plus efficace. Toutefois, ils recouraient aussi parfois à l'accumulation d'arguments, ce que Holzinger a décrit comme « jeter des choses au mur pour voir ce qui tient », au risque d'en faire trop. Le rôle de l'intermédiaire ou intercesseur mérite d'être souligné, car de nombreuses pétitions étaient transmises pour autrui. Il permettait aux pétitionnaires d'atteindre des destinataires autrement inaccessibles ou d'agir plus efficacement parmi un intercesseur haute dans l'hiérarchie. L'implication de tiers renforçait aussi la requête. Aux ressources, positions et statut du pétitionnaire s'ajoutaient ceux des intercesseurs, rendant un refus plus délicat. Ces lettres ouvrent sur une grande diversité de thèmes et de stratégies. C'est pourquoi je présenterai la semaine prochaine une typologie des argumentations qu'elles mobilisent en lien avec les débats normatifs des sources littéraires. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.